Info à Washington.
Avec vous, Henri Francisque, midi à Dakar, 13h à Libreville. Bienvenue à notre journal. Contestation au Soudan, plusieurs magasins et stations-service ainsi que des agences de banque privées ont rouvert ce lundi à Khartoum, la capitale, où les transports en commun circulent de nouveau. Au deuxième jour de mouvement de désobéissance civile lancé par la contestation soudanaise contre le conseil militaire de transition au pouvoir. Si je travaille, cela ne signifie pas que je ne soutiens pas la révolution, a assuré Abdulmajid Mohamed, un chauffeur de bus. Je dois travailler pour soutenir ma famille, sinon nous n'aurions pas d'argent, a-t-il précisé. La campagne de désobéissance civile pour forcer les militaires à céder le pouvoir aux civils a démarré hier sur fond de violence. Et les généraux à la tête du pays depuis la destitution du président Omar al-Béchir le 11 avril ont annoncé dimanche soir le déploiement de renforts dans la capitale pour un retour à la vie normale. Le point avec Gaby Dorsil.
Les leaders de la contestation ont accusé dimanche les militaires du Conseil de transition d'être responsables de la mort de 4 personnes durant la manifestation marquant le lancement de la campagne de désobéissance civile. 2 personnes ont été tuées par balle dans la capitale Khartoum et à Omdurman, non loin de Khartoum. Les 2 autres ont succombé dans un hôpital d'Omdurman aux sévices subis plus tôt dans la journée. Elles avaient été battues et poignardées selon le comité des médecins proches de la contestation. La même source fait état de 118 morts et plus de 2 000 000 de blessés depuis la répression le 3 juin dernier du sit-in devant le quartier général de l'armée à Khartoum. La rue soudanaise réclame depuis le départ d'Omar el-Béchir que les généraux remettent le pouvoir à un gouvernement civil. Mais les pourparlers entre les 2 camps ont été interrompus et les nouveaux actes de violence ne rassurent pas quant à l'éventualité d'une solution dans les prochains jours.
Au Gabon, le président Ali Bongo s'est exprimé ce week-end sur l'état de la nation. Le président Bongo, qui se remet lentement de son accident vasculaire cérébral, a dénoncé la gabegie et la corruption au sein de l'administration publique. Et il a appelé son premier ministre à former un nouveau gouvernement. Les précisions de notre correspondant à Libreville, Ismaël Obiang Nze.
Il ne s'était pas exprimé en public depuis son retour de convalescence en avril dernier. Ali Bongo vient de rompre le silence en déclarant qu'il sort de loin.
Je viens de traverser une période difficile de ma vie. Vaincre de telles épreuves renforce votre détermination à poursuivre vos aspirations et à tout mettre en œuvre pour les concrétiser.
Bien que se battant encore avec les séquelles de la maladie, le président gabonais pointe du doigt les travers de l'administration publique avec des hauts cadres plutôt soucieux de leur enrichissement personnel au détriment de l'intérêt général.
Il est capital pour notre nation d'en finir, une fois pour toutes, avec la corruption qui gangrène nos institutions. Il est capital d'en finir avec la mauvaise gestion, la mauvaise gouvernance qui nous empêche d'avancer et nous interdise de récolter les fruits des efforts colossaux et multiforme que l'État a consenti.
Comme remède à cette situation, Ali Bongo Ondimba a demandé à son Premier ministre de former un nouveau gouvernement. L'équipe actuelle va rester pour liquider les affaires courantes. Depuis Libreville, Ismaël Obianze pour VOA Afrique.
Afrique de l'Ouest maintenant, vague de violence dans le nord du Nigeria pendant le week-end. Des attaques contre des villages de l'État de Zamfara attribuées à des bandits qui ont fait au moins 43 morts. Le président nigérian Muhammadu Buhari a condamné ces incursions meurtrières, se disant choqué et attristé ce lundi par la mort de tant de gens dans l'état de Sokoto, victimes des groupes armés qui sèment la terreur dans les campagnes. Les sources policières font état d'une première vague d'attaques contre 4 villages à une 50aine de kilomètres de Sokoto, capitale de l'état du même nom, dans la nuit de samedi à dimanche, dont le bilan a été de 25 morts. Une seconde incursion plus au nord visant le village de Satiru à la frontière entre le Nigeria et le Niger a fait 18 morts. Les états de Sokoto, Katsina et Kaduna au nord d'Abuja, la capitale fédérale, sont le théâtre d'attaques similaires depuis plusieurs mois.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Afrique de l'Ouest toujours, au Bénin, la main tendue par le chef de l'État aux forces de l'opposition pour un apaisement de la situation socio-politique est diversement appréciée. Les précisions de notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur, à Dandé.
L'appel au dialogue lancé par Patrice Talon le 20 mai dernier est tout sauf une main tendue à marteler Candide Azanaï, ancien ministre de la Défense du gouvernement actuel. Pour lui, le discours n'a pas été rassembleur.
Il y a un discours guerrier qui n'a rien d'apaisant. Un discours qui fait l'apologie et l'éloge de l'impunité des crimes causés par les militaires. Nous devons nous unir, travailler de manière à ce que notre démocratie cesse d'être militarisée et que le pouvoir au Bénin cesse d'être un leadership de terreur.
Pour Éric Rounété, lui aussi membre de l'opposition, pas de réconciliation possible sans que les cartes ne soient redistribuées.
Il n'y a pas de dialogue et de paix sans vérité et justice. Et le message du peuple souverain est suffisamment clair. Le préalable à la restauration de la démocratie est la liberté sans condition du Parlement. Cela est non négociable.
Clavet Bignon est observateur de la vie politique. Pour lui, le vin est tiré depuis que les députés ont été installés. Il invite les acteurs politiques à se tourner vers l'avenir.
On ne peut pas revenir en arrière et donc c'est un acquis désormais que l'Assemblée nationale, mise en place, doit pouvoir faire un travail qui sera conséquent. Il fait des ouvertures et ces ouvertures, c'est à l'endroit de l'opposition notamment. Et donc la voie du dialogue, elle est là.
Et c'est dans ce climat de main tendue rejetée qu'une convocation de juge a été envoyée jeudi au président Bouniahi afin de l'écouter sur les violences survenues au lendemain des élections avec de nombreux dégâts matériels et des pertes en vie humaine. L'avocat de Bouniahi dénonce un acharnement et une séquestration morale de son client en résidence surveillée, selon lui, Maître René Agodjo.
C'est un abus, c'est une atteinte à la liberté, c'est une atteinte à la sécurité, c'est à la limite une torture morale. Ce serait pas trop hasardeux de parler d'une séquestration. Encore que les rares personnes, le kiné, le médecin et moi-même qui avons quelquefois accès à M. Bouniahi, nos identités sont systématiquement relevées et compte rendu est fait à je ne sais qui.
Aux dernières nouvelles, le transfert judiciaire a été fait au domicile de l'ancien président malgré la lettre de son avocat sur sa situation sanitaire préoccupante. Mais le juge à sa sortie n'a fait aucune déclaration. Les avocats et les forces de l'opposition demandent l'évacuation sanitaire de Bouniahi pour la préservation de sa vie. De Cotonou, Ginette Fleur Adandé pour VOA Afrique.
Libéria, le Conseil des Patriotes, collectif des organisateurs d'une manifestation de milliers de Libériens vendredi dernier contre la gestion du président Georges Weah, a annoncé dimanche accorder au chef de l'État un mois pour satisfaire leurs revendications. Lors de la dispersion du rassemblement, les organisateurs avaient appelé à une nouvelle manifestation ce lundi, en déplorant notamment de n'avoir pas pu remettre leur cahier de doléances au président Weah ou à sa vice-présidente Joel Howard Taylor. Relations États-Unis-Mexique maintenant, le président américain Donald Trump et son homologue mexicain Andrés Manuel López Obrador ont exprimé leur satisfaction samedi après l'accord conclu entre leurs deux pays sur l'immigration clandestine. Mais l'opposition démocrate n'est pas de cet avis. La chef des démocrates à la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, avait dès samedi estimé que les menaces et les accès de colère n'étaient pas un moyen de négocier une politique étrangère. Anne Albertson.
Les adversaires démocrates du président Donald Trump ont minimisé hier l'accord auquel il est parvenu vendredi soir avec le Mexique pour juguler l'arrivée d'immigrés clandestins. Il avait menacé d'user dès aujourd'hui de taxes douanières contre Mexico pour l'obliger à durcir sa politique envers ses migrants se dirigeant vers la frontière américaine. Les démocrates, dont le sénateur et candidat à la présidence Bernie Sanders, ont dénoncé ce qu'ils ont appelé les guerres commerciales permanentes du président américain contre ses alliés. En revanche, les partisans de M. Trump, dont le sénateur républicain Ron Johnson, ont salué un succès obtenu, je cite, « de manière brillante » en utilisant les tarifs douaniers comme moyen de pression.
Moyen-Orient, le premier ministre japonais Shinzo Abe se rend en Iran cette semaine pour une mission diplomatique délicate, au cours de laquelle il espère servir d'intermédiaire pour faire baisser la tension entre la République islamique d'Iran et les États-Unis. Le chef du gouvernement japonais doit rencontrer le président iranien Hassan Rouhani et le guide suprême de la révolution iranienne, l'Ayatollah Ali Khamenei, du 12 au 14 juin. C'est la première visite d'un premier ministre nippon dans le pays depuis 1978, et ce au moment où l'Iran et les États-Unis sont pris dans un bras de fer. Le président américain Donald Trump a retiré unilatéralement en mai 2018 son pays de l'accord international sur le nucléaire iranien conclu à Vienne en Autriche en 2015, ce qui a entraîné le rétablissement de dures sanctions économiques américaines contre l'Iran. Washington a également déployé d'importants moyens militaires dans le golfe arabo-persique et fait pression sur des alliés tels que le Japon pour qu'ils cessent d'acheter du pétrole iranien. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.